Ambrose Bierce. La route au clair de lune. Chapitre 1. Témoignage de Joel Etman Jr. Je suis le plus infortuné des hommes. Riche, respecté, plutôt bien éduqué et en bonne santé, avec beaucoup de ses avantages, très prisé de ceux qui les possèdent et convoité par ceux qui ne les ont pas. Je pense parfois que je serais moins malheureux si j'avais été privé de ces attributs, car alors le contraste entre ma vie extérieure et ma vie intérieure ne se rappellerait pas sans cesse si douloureusement à moi. Si je devais fournir des efforts pour échapper aux privations, je pourrais peut-être oublier parfois ce sombre secret qui échappe à toute conjecture. Je suis le seul enfant de Joel et Julia Hetman. Le premier était un gentleman de la campagne, très à l'aise. La seconde, une belle femme accomplie, pour laquelle il éprouvait, je le sais maintenant, une passion jalouse et dominatrice. La maison familiale se trouvait à quelques miles de Nashville, Tennessee. Une grande habitation de construction irrégulière, un peu à l'écart de la route, au milieu d'un parc planté d'arbres et d'arbustes. À l'époque de mon récit, j'avais 19 ans et j'étais étudiant à Yale. Un jour, je reçus un télégramme de mon père, rédigé en termes si pressants que, pour m'y conformer, et malgré l'absence d'explication, je partis immédiatement pour la maison. À la gare de Nashville, un parent éloigné m'attendait pour m'apprendre la raison pour laquelle on m'avait rappelé. Ma mère avait été sauvagement assassinée. Pourquoi et par qui, personne ne pouvait l'imaginer, mais les circonstances étaient les suivantes. Mon père était allé à Nashville, prévoyant de rentrer l'après-midi suivant. Quelque événement l'empêcha de conduire ses affaires comme il l'avait prévu, et il revint donc la nuit même, juste avant l'aube. Lors de son témoignage devant le coroner, il expliqua que, n'ayant pas la clé de l'entrée, et ne voulant pas déranger les serviteurs endormis, il avait fait le tour de la maison sans avoir d'intention bien définie. Tandis qu'il tournait au coin de la maison, il entendit une porte se refermer doucement et vit indistinctement dans l'obscurité la silhouette d'un homme qui disparut immédiatement parmi les arbres du parc. Pensant que quelque galant avait secrètement rendu visite à une servante, il courut et fit une brève recherche dans le parc, mais sans résultat. Il rentra par la porte, qui n'était pas verrouillée, et monta l'escalier qui menait à la chambre de ma mère. La porte de la chambre était ouverte, et, tâtonnant dans les épaisses ténèbres, il trébucha sur un objet lourd qui se trouvait sur le plancher. Je préfère m'épargner les détails. C'était ma pauvre mère, morte étranglée par les mains d'un homme. Rien n'avait été emporté, les serviteurs n'avaient entendu aucun bruit, et à part ces terribles marques de strangulation sur la gorge de la pauvre femme, mon Dieu, si je pouvais les oublier un jour, jamais on ne trouva la moindre trace de l'assassin. J'abandonnai mes études et je restai avec mon père, qui, bien entendu, avait beaucoup changé. Il avait toujours été d'un naturel calme et taciturne. Mais il était maintenant tombé dans un tel état d'abattement que rien ne pouvait plus retenir son attention. Et pourtant, la chose la plus dérisoire, un bruit de pas, une porte qui claque, éveillait chez lui un intérêt passager, on aurait même pu dire une appréhension. À la moindre surprise de ses sens, il se relevait, pâlissait, puis retombait dans une apathie mélancolique plus profonde que jamais. Je pense qu'on peut dire qu'il était à bout de nerfs. Quant à moi, j'étais plus jeune que maintenant, et cela joua pour beaucoup. la jeunesse est un don qui est un baume pour de nombreuses souffrances. Ah, si je pouvais encore habiter cette contrée enchantée. Peu habitué au malheur, je ne pouvais me faire à l'idée de la perte que j'avais subie, pas plus que je ne pouvais véritablement estimer la force du coup qui m'avait frappé. Une nuit, quelques mois après ce terrible événement, mon père et moi rentrions à la maison après être sortis en ville. La pleine lune était déjà haute, et tout le paysage avait la calme solennité d'une nuit d'été. Le bruit de nos pas et le chant des grillons étaient les seuls bruits qu'on pouvait entendre. La route était striée par les ombres noires des arbres qui la bordaient, et elle brillait d'une blancheur fantomatique dans les espaces dégagés. Tandis que nous approchions du portail de notre propriété, dont la façade était perdue dans les ombres, et où ne brillait aucune lumière, mon père s'arrêta soudain, agrippa mon bras et murmura « Mon Dieu, qu'est-ce là ?»« Je n'entends rien, » répondis-je. « Mais regarde, regarde !» dit-il, me montrant la route devant nous. Je lui répondis « Il n'y a rien. Viens, père, rentrons, tu n'es pas bien. » Il avait lâché mon bras et se tenait tout droit et sans bouger au milieu de la route illuminée par le clair de lune, regardant droit devant comme s'il était privé de ses sens. Son visage, baigné de clarté lunaire, était d'une pâleur et d'une fixité indiciblement inquiétantes. Je le tirai doucement par la manche, mais il avait oublié jusqu'à mon existence. Alors il commença à reculer pas à pas, sans jamais quitter des yeux ce qu'il avait vu ou pensé voir. Je fis demi-tour pour le suivre, mais je restai là, irrésolu. Je ne me souviens pas d'avoir ressenti la moindre peur, à moins qu'un frisson soudain n'ait été sa manifestation physique. C'était comme si un vent glacé avait caressé mon visage et avait enveloppé mon corps des pieds à la tête et jusqu'à mes cheveux. À ce moment, mon attention fut attirée par une lumière qui apparut soudain à l'une des fenêtres de l'étage. L'une des servantes, éveillée par Dieu sait quelle mystérieuse prémonition, obéissant à une pulsion inexplicable, avait allumé une lampe. Quand je me retournai vers mon père, il avait disparu, et, durant toutes les années qui ont suivi, aucune rumeur sur ce qu'il est advenu de lui n'a franchi les frontières de l'inconnu pour entrer dans le domaine des conjectures.